Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Avec quoi riment les fêtes de Noël, crèche, liturgie de Noël pour certains, bon repas, champagne ou crémeux pour d'autres, tant et si bien que l'on sort des fêtes avec l'envie de prendre quelques soupes de légumes pendant quelques jours. Si notre invité de ce matin ne nous fera pas la leçon, elle aura certainement la recette magique pour se réjouir sans excès. Ève Villemur est médecin et nutritionniste et a un credo, bien manger est aujourd'hui une urgence, celle de retrouver un certain art de la table. Ève Villemur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc médecin, nutritionniste, homéopathe, allez on va tout dire, thérapeute donc en thérapie cognitive et comportementale. Vous nous expliquerez ce que ces différents termes recouvrent, ce que tout le monde ne connaît pas. Et donc auteur d'un ouvrage récemment paru qui s'appelle « Maigrir grâce à nos trois cerveaux, paru aux éditions Le Duc Pratique. Alors on est bien content de vous avoir en ce lendemain des fêtes, comme ça tous ceux qui culpabilisent d'avoir fait un peu trop bombance vont être heureux de pouvoir prendre quelques leçons de bienséance, et tous les autres au contraire vont se réjouir d'être lancés sur une bonne ligne. Cela va peut-être surprendre une partie des auditeurs de faire une émission sur la nourriture, mais vous allez le découvrir, chers auditeurs. Ève Villemur est aussi chrétienne et donc elle parle, on va dire, de la nourriture avec un regard un peu particulier. Dans votre livre ou les conférences que vous donnez, vous commencez ou presque par alerter sur l'alimentation moderne. Alors vous n'êtes pas tout à fait la seule à faire cela, mais vous avez quelques phrases choc que j'ai notées. Vous parlez d'une pollution invisible, par exemple, et vous avez aussi ce mot « nous nous empoisonnons 3 à 4 fois par jour ». Est-ce si grave, docteur ? Expliquez-nous un petit peu.
Ben, effectivement, alors il ne s'agit pas de culpabiliser ni d'alarmer au-delà nos auditeurs, mais il faut quand même prendre conscience que notre alimentation moderne présente un certain nombre de dangers pour nous. En effet, déjà, il faut partir du postulat que nous sommes ce que nous mangeons, c'est-à-dire que nous nous renouvelons sans cesse. Par exemple, notre intestin se renouvelle en quelques heures. Alors c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle parce que rien n'est jamais perdu, on peut toujours rectifier le tir, mais c'est une mauvaise nouvelle parce que il va falloir véritablement inscrire dans la durée de bonnes habitudes alimentaires. Alors quels sont les dangers justement de notre alimentation moderne ? Eh bien, il y a un certain nombre de manipulations génétiques. Prenons par exemple le blé moderne.
Alors ça m'a frappé. Vous dites que dans le blé possède 42 chromosomes quand notre corps est habitué à en digérer 14.
14,
c'est ça ? Ça veut dire quoi en fait exactement ?
Mais ça veut dire que dans un souci de productivité et de résistance aux différentes maladies, le blé a subi des modifications génétiques que notre génome, c'est-à-dire nos propres chromosomes, ne sont pas prêts à assimiler. Nous sommes programmés pour le moment à assimiler un blé à un certain nombre de chromosomes et non pas à assimiler un blé à 3 fois plus de chromosomes. Ce qui fait qu'il y a, effectivement, nos auditeurs peuvent s'en rendre compte, de plus en plus d'intolérance au gluten. Et donc de difficultés à digérer le blé avec des ballonnements dès qu'on mange du pain, notamment du pain blanc. Ça, c'est l'un des premiers dangers de l'alimentation moderne, les manipulations génétiques. Mais il y a aussi, dans l'agriculture moderne, l'utilisation largamanu de vaccins, d'antibiotiques, les contraceptifs œstroprogestatifs, c'est-à-dire les pilules qui se retrouvent dans les eaux, qui se retrouvent dans les terres. Et finalement,
avec des enfants parfois qui ont une puberté précoce,
effectivement, vous faites bien de le signaler, et de la même façon, c'est l'une des raisons pour lesquelles, semble-t-il, il y a une diminution de la fertilité, notamment chez les messieurs, à force de boire cette eau imprégnée d'œstrogènes. Mais pour en revenir à notre agriculture, donc les viandes, le lait sont véritablement pollués par les vaccins et les antibiotiques que l'on administre aux vaches. Et puis il y a un troisième point qui est très très important. Il s'agit de ce qu'on appelle les aliments ultra transformer.
Alors vous avez des ennemis, on ne les donnera pas forcément de nom, quoique dans vos conférences vous en citez, mais c'est vrai qu'on ne se promène plus dans le rayon bonbons et chocolat. J'en ai fait l'expérience moi-même hier en préparant l'émission, avec la même conscience. Alors allez-y.
Alors les aliments ultra transformés, ce sont les aliments qui s'éloignent de ce qu'on appelle la matrice, hein, c'est-à-dire l'élément naturel de base. C'est-à-dire que quand vous êtes face à un bâtonnet de surimi, vous avez vraiment beaucoup de difficultés à imaginer le petit poisson qui a été pêché et qui a donné cette espèce de bâton caoutchouteux et vaguement coloré au goût de poisson. Mais prenons par exemple le pain de mie. Le pain de mie, quand vous savez que dans le pain de base, il y a quatre ingrédients, c'est-à-dire la farine, l'eau, le sel et la levure. Donc, quatre ingrédients très simples vont faire du pain. Eh bien, dans le pain de mie, vous en avez 34. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose, là encore, qui va demander un effort à notre corps, un effort de digestion. Et il faut savoir qu'en plus, ces aliments ultra transformés se voient ajouter force additif et colorant, justement pour être appétant, pour avoir bon goût, pour avoir une longue conservation. Et tous ces aliments ultra transformés, ces vaccins, ces antibiotiques et ces manipulations génétiques vont faire que notre génome n'est absolument pas prêt à assimiler tout ce que on lui propose d'ingurgiter.
Alors, quelles sont les conséquences? On en entend parler souvent, vous citez l'obésité, les maladies cardiovasculaires. On entend, et on ne sait jamais si c'est tout à fait juste aussi, que ça serait la cause d'un certain nombre de cancers. En préparant l'émission, je suis tombé sur un article paru dans le Figaro, c'était en février dernier, « Cancer, la nourriture industrielle à risque », une étude qui portait sur plus de 100 000 personnes, où un certain auteur, entre autres Anthony Fardet, auteur de « Halte aux aliments ultra transformés, mangeons vrai », paru aux éditions Thierry Soucard, là vous avez publié d'ailleurs votre premier ouvrage, dit « J'ai la conviction profonde, en gros, qu'il y a un lien de cause à effet ». Les suites, c'est que on peut, chacun, en fait, avoir de réels soucis, parce qu'on se dit toujours que c'est un peu les autres qui sont obèses ou qui finissent par avoir un cancer. C'est...
Absolument. Alors on sait que tous ces aliments ultra transformés, en fait, le problème de ces aliments ultra transformés, outre les additifs et les produits éventuellement toxiques qu'ils contiennent, leur gros souci, c'est que ils sont bourrés de sucre et que ces sucres vont entraîner via l'insuline. Peut-être nous en parlerons dans une autre partie de l'émission, vont entraîner une véritable inflammation de l'organisme. Et donc c'est cette inflammation, on parle d'inflammation de bas grade, donc nous sommes enflammés, c'est un petit peu comme un feu qui couve, et il suffit juste d'une allumette pour que ça flambe. Et donc effectivement, les produits ultra transformés, si vous en consommez plus de 13% selon les études, eh bien vous avez un risque d'obésité, un risque de maladie cardiovasculaire, un risque de diabète et un risque de cancer parce que malheureusement, les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre.
Voilà, 13% c'est quand même pas considérable. Il suffit de vouloir tous les jours un petit peu se payer ce qu'il ne faudrait pas manger. Alors, vos convictions, on va d'abord parler un tout petit peu de cela avant de voir dans une deuxième partie comment essayer de bien manger. Vos convictions, probablement parce que vous êtes chrétienne, c'est qu'il faut redécouvrir un art de la table et avant cela, reprendre conscience que notre corps n'est pas, on va dire, qu'une enveloppe digestive, que notre corps est sacré. C'est là le propre, on va dire, de la spiritualité chrétienne. Hein. J'ai souvenir aussi dans une émission d'un invité qui racontait que les premiers chrétiens parfois étaient considérés même comme des idolâtres parce qu'ils se faisaient une idée du corps qui était pour l'époque ou la pensée environnante bien surprenante. Redites-nous vos convictions et surtout ce que disent peut-être les Écritures sur ce sujet.
Eh bien, il me semble que particulièrement dans notre religion chrétienne, le corps est sacré. Dieu nous l'a montré depuis la conception jusqu'à la mort. Il est unique et précieux. Et nous devons le respecter véritablement depuis le premier souffle jusqu'au dernier. Déjà dans la première aux Corinthiens, on lit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est dire l'importance que notre religion accorde au corps. D'ailleurs, notre Seigneur lui-même s'est incarné. Je trouve que c'est, moi, en tant que médecin et en tant que femme chrétienne, je trouve que c'est vraiment merveilleux d'imaginer, nous sommes encore dans l'octave de Noël, d'imaginer que notre Dieu a voulu s'incarner, a voulu véritablement épouser ce corps qu'il nous a donné. Et d'ailleurs, n'a-t-il pas choisi le corps très pur de la Vierge Marie pour s'incarner, si pur que l'Église très vite a pressenti que ce corps ne pouvait connaître la corruption. Donc Jésus véritablement pendant toute sa vie, il ne s'agit pas d'être idolâtre du corps, mais de lui accorder toute son importance dans la mesure même où le Seigneur s'est incarné, où il a touché les enfants, il a caressé les enfants, il a touché les malades. Véritablement, il a donné toute sa noblesse à notre corps humain.
Et il mangeait souvent. On y reviendra peut-être à la fin de l'émission. J'ai souvenir aussi, je fais quelques ajouts, je picore à droite à gauche, non pas que votre propos soit pauvre, mais pour l'étayer, d'un livre de Régis Debray, Le Moment Fraternité. Alors ça va peut-être introduire cette notion de repas où il dit que pour faire fraternité, voilà, pour que la devise républicaine de la fraternité soit davantage vécue, en tout cas il y a une manière dans toutes les civilisations, c'est le repas, le serment et une chorale. Voilà, donc il n'y a pas de fraternité sans repas. Pourquoi est-il important de retrouver un certain art de la table sans faire de nos repas peut-être des mondanités, Ève Villemur?
Ben, effectivement, le repas a véritablement beaucoup d'importance et je dirais que au-delà de ce premier symbole de nourrissage, c'est-à-dire je nourris les autres, je leur sers à manger. Et d'ailleurs, là encore, on peut faire référence à la multiplication des pains, à la manne, au désert. Donc c'est important le repas pour se nourrir, pour vivre. Mais comme vous le disiez, le repas est symbole de fraternité. On devient copain lorsque l'on partage le pain avec quelqu'un. Le Seigneur a vécu l'hospitalité avec ses amis. Le pape lui-même dit « Une famille qui ne prend jamais ses repas ensemble » n'est pas une vraie famille. Alors il y va fort. Et donc, fonction de nourrissage, fonction de rassemblement, et aussi, dans nos fêtes humaines, il n'y a pas de fête, de célébration sans repas. C'est dire que le repas est véritablement le moment où les ancrages familiaux ont lieu, les noces, les baptêmes. Comment, là encore, ne pas faire référence à l'Écriture lorsque le premier miracle a eu lieu lors des noces de Cana, lorsque Zachée a eu cette conversion extraordinaire alors qu'il recevait le Seigneur à sa table. Et bien évidemment, comment ne pas évoquer la scène.
Pour finir, avant qu'on fasse une première pause, est-ce que vous pourriez nous dire un mot de la gratitude? Voilà, vous insistez aussi sur le fait que bien manger, c'est aussi réapprendre à introduire un peu de gratitude. C'est un regard contemplatif un peu sur la nourriture. La gratitude, ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire s'arrêter, le temps de s'arrêter, de rendre grâce. Qu'est-ce que vous diriez pour ceux qui nous écoutent, qui sont chrétiens ou pas forcément?
La gratitude, que l'on soit chrétien ou pas, est importante. D'ailleurs, des études scientifiques ont même prouvé que ça permettait d'avoir une meilleure digestion, donc c'est amusant. Mais la gratitude, c'est effectivement se rendre compte que j'ai de la chance d'avoir quelque chose dans mon assiette, que si j'ai quelque chose dans mon assiette, c'est que la cuisinière a préparé les mets, c'est que les agriculteurs les ont récoltés. C'est toute une chaîne véritablement humaine de travail qui me permet de subvenir à mes besoins. La gratitude, c'est aussi prendre le temps peut-être justement de remettre au goût du jour le bénédicité. J'ose en parler dans mon livre d'ailleurs. Et c'est aussi une marque de respect que de prendre le temps avant de se jeter sur la nourriture, prendre le temps de reconnaître que j'ai de la chance quand d'autres peut-être n'en ont pas. Et c'est aussi là encore les études l'ont prouvé respirer respirer, regarder, pratiquer cette...
Être présent à ce que...
Voilà, cet ancrage qui permet de, d'ailleurs même dans les troubles des conduites alimentaires, de se poser et de prendre véritablement conscience, pleinement conscience, du moment agréable que l'on va vivre.
Voilà, dans le titre d'une de vos conférences, vous reprenez une phrase du pape François, « On ne plaisante pas avec la nourriture ». Voilà, le pape François toujours aussi concret dans ses citations. Certainement, vous en aurez d'autres à nous donner. Je rappelle le titre de votre ouvrage pour ceux qui, par hasard, nous quitteraient maintenant. En tout cas, le dernier, « Maigrir grâce à mes trois cerveaux », paru aux éditions Le Duc Pratique. On fait une courte pause musicale et on vous retrouve.
Présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Une émission Vivante Église ce matin, donc vous avez dit bien manger en ce lendemain de fête. On fait le point, on va dire, sur une bonne manière de se nourrir avec Eve Villemur, médecin et nutritionniste, auteur d'un ouvrage intitulé « Maigrir grâce à mes trois cerveaux » paru aux éditions, Le Duc Pratique. Eve Villemur, dans cette deuxième partie, comme promis, vous allez nous expliquer ce qu'est, selon vous, le bien manger. Mais avant ça, j'avais peut-être une question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus quelle est votre pratique professionnelle? Vous me disiez en préparant l'émission que vous accompagnez des personnes qui sont en surpoids. Est-ce que vous pouvez nous raconter un tout petit peu votre activité professionnelle?
Alors, j'accompagne effectivement pas mal de personnes en surpoids ou désireuses de maintenir un poids santé qui leur permette de bien fonctionner et d'être bien dans leur corps et dans leur vie. C'est grâce à cette pratique que je me suis rendu compte que m'occuper simplement de diététique, c'est-à-dire d'assiette, ne suffisait pas et qu'il fallait aussi que je m'occupe de la tête. Parce que il est vrai que savoir ce qu'on doit, entre guillemets, manger ne suffit pas à faire durablement ce qu'il est souhaitable de faire. Et donc, il faut s'occuper aussi de ce que j'appelle la tête, c'est-à-dire des émotions positives comme la motivation, rester motivé à faire ce qu'il faut pour sa santé. C'est important, c'est un peu comme un muscle, il faut l'entretenir. et les émotions plus négatives comme la tristesse, la peur, la colère, la frustration. Et si je ne sais pas les gérer autrement qu'en compensant par la nourriture, eh bien je vais pouvoir tenir quelques semaines, mais dès qu'une tuile va me tomber sur la tête ou dès que je vais avoir un problème au boulot ou en famille, eh bien je vais me réfugier dans le frigo. Donc je me suis dit en tant que professionnelle que je ne pouvais pas accompagner complètement mes patients si je n'avais pas des outils à leur proposer pour savoir mieux gérer leurs émotions. C'est ainsi que je suis devenue spécialiste également en TCC, c'est-à-dire thérapie cognitive et comportementale.
Donc, dans l'une de vos conférences, vous dites qu'il y a la distinction d'Épictète, qui dit que dans son alimentation, il y a ce qui ne dépend pas de moi et ce qui dépend de moi, c'est ça? Donc, ce qui dépend de moi, vous avez une sorte de marguerite, où vous citez différents points ou différents leviers d'action, équilibrer les entrées et les sorties, soigner le contenu de l'assiette, opter pour la qualité, éviter le gaspillage, respecter les rythmes et cultiver la gratitude. Ça, on en a déjà parlé. Si on commence par le premier, équilibrer les entrées et les sorties, qu'est-ce que ça veut dire? Vous parlez entre autres du fameux IMC. Alors, faut-il chacun calculer son IMC et veiller à cela? Et rappelez-nous ce qu'est l'IMC.
Alors, il est certain qu'on peut considérer que notre corps est comme une boîte fermée ou comme un compte en banque. Il va falloir équilibrer les entrées et les sorties. Et c'est pour cela que on parle d'IMC, c'est-à-dire d'indice de masse corporelle, qui est la taille sur notre poids au carré et qui correspond à notre corpulence idéale pour bien fonctionner et bien nous mouvoir. Donc c'est un indice de santé, on va dire, qui, entre parenthèses, n'a pas été créé par des médecins, mais par des assureurs. C'est dire à quel point, et ça fait un petit peu froid dans le dos, cet indice-là est un indice de santé. C'est-à-dire que les assureurs s'étaient rendus compte que si l'IMC était important, c'est-à-dire au-delà de 25 on est en surpoids, au-delà de 30 on est en obésité, au-delà de 35 en obésité dite morbide, c'est-à-dire avec de graves préjudices pour la santé, eh bien les assureurs s'étaient rendus compte.
Et donc la possibilité de mourir, tout simplement.
Voilà, exactement. Ouais. Donc d'où l'importance de cet IMC. Surtout, ce qui est important, c'est pas forcément de calculer notre IMC, mais de faire en sorte d'avoir donc une corpulence qui soit compatible avec un fonctionnement optimal. Et donc, eh bien, équilibrer les entrées et les sorties. Et là, on a déjà parlé dans la première partie de la difficulté de notre alimentation moderne. Il y a une autre difficulté actuelle, c'est que, du moins sous nos latitudes, la nourriture nous est proposée à profusion. C'est-à-dire que vous avez des étalages extraordinaires dans les supermarchés.
Difficile de résister, oui.
Difficile de
résister. Surtout pour les enfants quand ils arrivent en caisse.
Exactement, d'autant plus qu'en caisse, justement, on va vous mettre les paquets de bonbons dont on n'a absolument pas besoin. Mais au-delà même des grandes surfaces, vous avez des publicités à la télévision. Le bonheur est associé au plaisir de manger. Et donc très vite, dans notre cerveau, alors qu'on n'avait pas pensé à grignoter une plaquette de chocolat, mais tout d'un coup, on en a envie alors qu'on n'y pensait même pas. Donc, pour équilibrer les entrées, il va falloir vraiment faire attention à cette nourriture proposée à profusion, alors même que, là encore, les études scientifiques prouvent que l'une des clés de la longévité est la frugalité.
Alors la frugalité, vous dites entre autres qu'un homme de 38 ans qui appliquerait progressivement une réduction calorique de 40% pourrait gagner 15 ans d'espérance de vie.
Oui, c'est le professeur Castronovo.
C'est pas vous exactement, oui.
C'est le professeur Castronovo qui est un éminent professeur belge.
Réduction calorique de 40%, 15 ans d'espérance de vie. On imagine que c'est pour des gens qui ont peut-être une alimentation excessive aussi.
Excessive, bien évidemment. Mais ça veut dire que, vous voyez, quand mes patients me disent, c'est normal, je suis ménopausée, donc j'ai pris un peu de kilos, etc. Non. En fait, on devrait pouvoir garder le même poids que notre poids de forme à 30 ans. Mais cela veut dire que il va falloir vraisemblablement diminuer les entrées ou augmenter les sorties, on va y venir tout de suite, parce que notre métabolisme au fur et à mesure de la vie se modifie. C'est-à-dire que des choses que je pouvais, on voit bien, nos adolescents, ils vont dévorer, mais ils en ont besoin parce qu'ils sont en pleine expansion corporelle. Lorsque je bouge moins, que je n'ai pas à fabriquer particulièrement de masse musculaire, etc., ou à grandir, ou de masse osseuse, eh bien, c'est tout à fait logique que j'ai à diminuer mes entrées. Et le deuxième problème, c'est la diminution des sorties, qui est encore une tare actuelle de notre société moderne. On vit assis, on n'a jamais fait autant de kilomètres assis, assis dans un avion, assis dans une voiture ou dans un train. Et donc, non seulement nous sommes sédentaires, mais en plus, nous avons de moins en moins d'activités physiques. Et ce sont deux choses différentes. Et là encore, les études scientifiques montrent que pour favoriser une longue vie en bonne santé, il faudrait au moins 3 heures d'activité physique par semaine, ce qui finalement n'est pas excessif. Vous savez, le créateur nous a conçu, nous a imaginé pour être des animaux qui bougeons.
Or, enfin, quand on bouge de moins en moins. Quand on a des journées de 10 heures et qu'on a une heure ou deux de transport, ça fait quand même 3 jogging par semaine. Mais je vois le temps qui passe, alors je voudrais qu'on avance. Vous avez donc, vous attirez notre attention sur 3 points, le sucre, les graisses et les fibres. Alors le sucre, c'est pareil, vous y allez pas de main morte, vous dites que les sucres nous font caraméliser sur place, nous font grassir, nous enflamment, nourrissent les cellules cancéreuses. Vous avez un tableau qui fait froid dans le dos, pain blanc, pain de mie ou pain de campagne, on voit 11 carrés de sucre, biscottes et dérivés type cracotte, 15 carrés de sucre. Et je citerai pas les marques des cornflakes préférées des enfants le matin, mais là, on atteint parfois, allez, on frôle presque les 20 sucres. Qu'est-ce que vous me diriez sur les sucres, en fait? Quel est le bon remède? Faut-il tout simplement regarder chaque emballage avec précaution, ou faut-il bannir les sucres?
Alors, bannir les sucres, c'est difficile parce qu'il y en a partout. Mais effectivement, c'est l'ennemi public numéro un.
Partout, et là où on ne l'attend pas, de fait.
Et là où on ne l'attend pas, pour la bonne et simple raison que, y compris dans des jambons industriels, vous allez avoir des sirops de glucose, maltose ou fructose à l'intérieur même de ce qui a apparemment un goût salé, et où on n'attend pas la présence de sucre. Donc effectivement, regardez les étiquettes dès lors que vous achetez des produits et qui ne sont pas vendus chez votre petit charcutier du coin dont vous connaissez la provenance des aliments. Oui, regardez les étiquettes et faites attention à tout ce qui se termine par ose. Sirop de fructose, glucose, maltose. Pourquoi? Parce que ces sucres sont insulinogènes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont faire en sorte que votre pancréas va sécréter de l'insuline. Cette insuline, c'est une hormone qui a été très utile au temps des cavernes, au temps où nous avions, nous devions faire face à la famine. Et cette insuline, en fait, elle permet de stocker le sucre. Et je voudrais attirer votre attention sur ce point-là parce que c'est vraiment capital. Le sucre, c'est ce qui va véritablement enflammer la mèche, mais la bombe, c'est l'insuline. La bombe, c'est l'insuline, et cette insuline, qui est l'hormone de stockage, dès lors que vous mangez du sucre, vous savez, votre glycémie monte. Et donc, pour descendre cette glycémie, stabiliser cette glycémie, il va falloir ranger le sucre, grossièrement, dans 3 armoires différentes. La première armoire, ça va être les cellules musculaires, mais à condition de s'en servir. Qu'on fasse ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir que l'organisme, il est pas fou, l'insuline, elle se dit, tiens, ben, on n'utilise pas les cellules musculaires, donc je vais pas le mettre dans l'armoire à muscles. Deuxième armoire, c'est le foie, où là, le sucre va être consigné sous forme de glycogène. C'est véritablement la réserve de sucre qui permettra d'être utilisé en cas de besoin. Mais c'est comme si cette armoire était à contenance limitée. Et donc, il faut une troisième armoire si je continue à manger du sucre, si je continue à sécréter de l'insuline. Et cette troisième armoire, malheureusement, c'est le tissu adipeux. Et cette armoire, eh bien, elle peut être augmentée quasiment à l'infini.
Voilà, et là, si vous êtes au volant, eh bien, vous continuez à regarder la route et ne vous regardez pas votre ventre. si on passe au deuxième point, que sont les graisses, qu'est-ce que vous pouvez nous partager là-dessus? Vous avez cette phrase, moi, que je n'ai pas tout à fait compris, donc je vais vous laisser l'expliquer. La cuisson modifie la structure dans l'espace des molécules de graisse. Ça veut dire quoi?
Alors, pour les graisses, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'effectivement, la structure moléculaire, c'est-à-dire imaginez qu'une graisse est une espèce de tige, avec, imaginez un porte-manteau avec des tiges à droite et à gauche. D'accord ? Vous voyez ce que je veux dire ? Des patères. Imaginons que toutes les patères soient à droite, ça va bien rentrer dans le corps. Mais si j'ai une patère qui tourne, et donc une est à droite et l'autre est à gauche, eh bien cette structure moléculaire là va être moins facilement assimilable par le corps. Et donc ça veut dire en clair que la cuisson de toutes les graisses va modifier la structure dans l'espace des graisses et donc les rendre beaucoup moins assimilables. Et donc ça va les stocker. Donc ça c'est le premier message, toute graisse cuite finalement n'est pas bonne pour la santé. Mais le deuxième message qui est tout aussi important,
c'est qu'il y a des bonnes et des mauvaises graisses.
C'est qu'il y a des bonnes et des mauvaises graisses.
Alors allez-y, dénoncez les coupables.
Alors, vous avez certainement entendu parler du rapport oméga-6-oméga-3. Alors, pour faire simple et grossier, et je m'excuse d'entrée de jeu parce que je vais être un petit peu outrancière, mais globalement, les oméga-6, c'est-à-dire l'huile de tournesol, l'huile que vous avez dans les viennoiseries, dans les biscuits, dans les plats cuisinés. Donc les oméga-6, et je dis bien donc tournesol, les oméga-6 vont être pro-inflammatoires, donc ils vont vous enflammer. Ils vont être pro-cancérigènes et ils vont être mauvais pour votre santé cardiovasculaire. À l'inverse, la bonne nouvelle, c'est que les oméga-3 font tout l'inverse, c'est-à-dire qu'ils luttent contre l'inflammation, ils luttent contre l'obésité, contre les maladies cardiovasculaires et sont protecteurs du cancer.
Alors je les cite, huile de colza, huile de lin ou caméline, graines de lin oléagineux, les oléagineux c'est le noix, amandes, etc. et le poisson.
Absolument.
Et alors quid de l'huile d'olive, vous le mettez au milieu, oméga 9 en tout cas dans un de vos schémas, c'est quoi, c'est ni le mauvais ni le bon élève ou au contraire on entend souvent dire que l'huile d'olive on peut en mettre, en veux-tu en voilà, que c'est très bon pour la santé.
Alors l'huile d'olive est bonne pour la santé parce qu'en fait nous avons besoin d'oméga 3, d'oméga 6, d'oméga 9. Vous savez la nature a été bien faite et on a besoin un petit peu de tout, nous sommes des omnivores. Le problème est que notre alimentation moderne nous donne un surcroît d'oméga 6 et donc cet effet inflammatoire et cancérigène, etc., est mauvais pour la santé cardiovasculaire que j'ai signalé. Donc l'huile d'olive, elle n'est ni oméga 6 inflammatoire, ni oméga 3 anti-inflammatoire. Elle est juste bonne parce que elle est bonne au goût et parce que elle nous amène des oméga 9. Donc
on peut en mettre un peu dans son assiette à chaque repas.
Très concrètement, l'idéal serait de faire un mélange huile d'olive, huile de colza.
Alors, si on passe aux fibres et légumineux, tout le monde a en tête ce mantra contemporain, manger 5 fruits et légumes, manger 5 fruits et légumes par jour. Je ne sais pas si vous diriez la même chose. En tout cas, est-ce que vous pouvez nous expliquer plus sérieusement ce que les fibres et les légumineux nous apportent d'aussi important ? Vous parlez du microbiote intestinal.
Oui. Alors, à côté de l'excès de sucre et de l'excès de mauvaise graisse, il y a effectivement un troisième problème, c'est le fait qu'il n'y a pas assez de fibres ni de légumineuses. Pourquoi ? Parce que si je n'ai pas assez de fibres, je vais avoir une modification de ce qu'on appelle le microbiote. Le microbiote, ce sont les bactéries que vous avez dans votre ventre et qui vont avoir un rôle extrêmement important dans votre santé. Santé en général, santé même émotionnelle. Et lorsque mon microbiote, c'est-à-dire ces bactéries que j'ai dans l'intestin, ne sont pas bien nourries par l'absence de fibres, eh bien il va y avoir un déséquilibre. Ça va provoquer quoi dans un premier temps ? Des colopathies, des ballonnements, des altérations du transit, donc alternance, diarrhée, constipation, etc. Mais au-delà de cela, à force, il va y avoir une altération du tube, c'est-à-dire du tuyau qui contient les fameuses bactéries, c'est-à-dire de votre intestin lui-même. Et votre barrière intestinale, votre muqueuse intestinale va être altérée et va en fait devenir poreuse et va laisser passer tout un tas de choses qui normalement devraient être éliminées. Et donc vous imaginez bien que...
Laisser passer où ?
Laisser passer à l'intérieur du corps, laisser passer à l'intérieur du sang, parce que derrière la barrière intestinale, il y a la circulation sanguine. Et donc des choses qui devraient être absorbées ne le seront plus. et des choses qui ne devraient pas être absorbées le seront. Et donc, là encore, il va y avoir une invasion du corps, d'où une inflammation locale, une inflammation générale, des allergies, des maladies auto-immunes et malheureusement, là encore, des cancers et des troubles de l'humeur, puisqu'on s'est aperçu qu'un intestin qui ne fonctionnait pas bien pouvait avoir une incidence au niveau des troubles anxieux et dépressifs.
Dites donc, on en apprend des choses ce matin. Ça veut dire que vous êtes pour le fameux mantra contemporain 5 fruits et légumes par jour, c'est la bonne échelle.
Alors le problème, c'est que la plupart du temps, les gens, quand ils entendent 5 fruits et légumes par jour, pensent surtout aux fruits et oublient les légumes. Donc non, je ne dirais pas 5 fruits et légumes par jour.
5 légumes plus 5 fruits.
Non, parce que 5 fruits, ça va m'apporter trop de sucre, surtout si je suis diabétique. Je dirais 1 ou 2 fruits maximum par jour. Et 4 ou 5 légumes. Et il y a les légumes et les légumineuses. Et les légumineuses, ce sont nos fameux légumes secs, c'est-à-dire les lentilles, les pois cassés, les lentilles de toutes couleurs, le quinoa, les haricots blancs. Donc des choses qui sont qui calent bien. Vous savez, ce sont des choses, finalement, on redécouvre les légumes et les légumineuses d'antan. Et donc, l'autre raison de remettre au goût du jour les légumineuses, c'est qu'elles sont pourvoyeuses de protéines d'origine végétale et que cela va équilibrer l'apport en protéines animales et protéines végétales. Et ça, c'est à la fois bon pour le corps et bon pour la planète.
Voilà, donc il ne faut pas excéder 2 à 3 fruits par jour, c'est ça ?
3 fruits, c'est même déjà trop.
Bon, donc il faudra que vous réécriviez un livre avec un titre « Ne pas manger 5 fruits et légumes par jour ». Vous allez avoir un succès librairie considérable. Je rappelle le titre de votre ouvrage avant qu'on fasse une deuxième pause et puis on va vous retrouver à la fin pour continuer à parler nourriture. Entre autres, vous nous parlerez peut-être du rythme qu'il faut essayer d'avoir, ce fameux rythme petit déjeuner comme un roi, déjeuner comme un prince et dîner comme un pauvre. Et puis on finira par une méditation plus spirituelle parce que la nourriture dit aussi quelque chose ou souvent de l'état de notre cœur. Et c'est peut-être aussi pour ça que l'Église nous en parle, ou même que Dieu s'est fait nourriture. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Maigrir grâce à mes 3 cerveaux » paru aux éditions Le Duc Pratique.
Présence. Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église, ce matin, en ce lendemain de fête, ou presque, avec Ève Villemur, médecin nutritionniste, donc émission, pardon, sur le thème « Vous avez dit bien manger ?» point d'interrogation. Ève Villemur, qui est l'auteur d'un ouvrage, entre autres, récemment paru, intitulé « Maigrir grâce à mes trois cerveaux », paru aux éditions Le Duc Pratique. Alors, mes trois cerveaux, je ne sais pas si on a beaucoup de temps pour l'expliquer. Allez-y, de quelques mots quand même, parce que j'arrête pas de citer le nom de votre livre. Alors, on connaît le cerveau gauche, cerveau droit, mais vous en rajoutez un.
Oui, et ce n'est ni le gauche ni le droit. C'est le cerveau rationnel, le premier cerveau, qui a besoin de comprendre, de savoir un certain nombre de choses. C'est ce que nous sommes en train de développer pour nos auditeurs. Mais le deuxième cerveau, c'est le cerveau émotionnel, parce que savoir ce qu'il faut, entre guillemets, manger, ne va pas me donner les moyens de le faire, notamment si je suis en proie à des émotions. Et donc le cerveau émotionnel doit être réglé pour se mettre au diapason du cerveau rationnel. Et le troisième cerveau, c'est le cerveau intestinal, tant il est vrai que chaque jour, on découvre que ce cerveau est en fait peut-être le premier des cerveaux qui va commander à la totalité de notre organisme, pour notre santé.
Voilà, alors pour en savoir plus sur nos trois cerveaux, il faut lire votre livre. Dans cette dernière partie d'émission, on s'est dit qu'on allait quand même parler un petit peu du rythme de l'alimentation. Je citais cet adage « petit déjeuner comme un roi, déjeuner comme un prince, dîner comme un pauvre ». Est-ce là un des bons rythmes d'alimentation et que recouvre cette expression ?
Absolument. Les rythmes sont importants. Respecter les rythmes de la nature, respecter les rythmes de notre organisme. Et il est préférable de manger davantage le matin, par exemple des œufs, du jambon, du fromage, des flocons d'avoine, du pain complet ou du pain de seigle, des fruits. Donc véritablement faire un bon petit déjeuner. Déjeuner de prince, eh bien c'est la place pour le déjeuner des protéines animales, des légumes crus et cuits, bien assaisonnés avec l'huile de colza, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et au contraire, un dîner de pauvre, c'est-à-dire plus léger, c'est là que les protéines végétales, donc les légumineuses, vont avoir une place de choix, les légumes crus et cuits, la soupe. Il peut être important aussi, notamment pour les personnes qui ont du mal à stabiliser leur glycémie, d'avoir un goûter à 4 heures et donc d'avoir un rythme vraiment bien régulier.
Donc c'est le moment où vous autorisez du sucre pendant la journée, c'est ça ?
Effectivement, du sucre, à quelque chose de sucré, un fruit à 4 heures, ça peut tout à fait être une bonne chose ou un yaourt nature. L'autre point important en ce qui concerne le rythme, c'est à l'intérieur du repas lui-même. Souvent nous mangeons beaucoup trop rapidement, sans mastiquer, sans faire attention à ce que nous faisons. Or, il est important, y compris pour stabiliser son poids, de bien mâcher, de prendre bien conscience de ce que l'on fait, donc de manger en pleine conscience. Et le repas, à titre d'exemple, doit durer entre 20 et 30 minutes, ni moins, parce que sinon nous n'avons pas le temps d'envoyer des messages de satiété à notre cerveau, ni plus, parce que sinon nous restons à table et nous risquons de manger plus que de raison. Et le pape François lui-même dit, pour en revenir à nos écrans, « Sachez dire non au téléphone et à la télévision à table ».
Décidément, il pense à tout ce pape. Pour finir, vous vouliez un peu nous élever. Vous avez une expression pour cela, faut-il encore que je la retrouve. Bref, la manière dont on s'alimente ne dit quelque chose en fait de notre état intérieur. À vous lire, beaucoup de personnes en fait qui ont des problèmes de poids, ça pourrait entre autres être dû, enfin la cause pourrait être à chercher ailleurs. Quel mot d'introduction vous pouvez avoir sur ce sujet avant qu'on le creuse un peu ?
Bien, autant nous avons dit qu'il était important de bien se nourrir et pour quelles raisons, autant il ne s'agit pas de faire que la nourriture soit le centre de notre vie. Donc je pense qu'il faut remettre la nourriture à sa place et là je verrai deux écueils à éviter. Le premier écueil, c'est la nourriture comme source excessive de plaisir. Et là, on pourrait peut-être dire que le malin nous envoie quelques petits hameçons. Pensons au péché de gourmandise, à la difficulté de partager, à la difficulté à se restreindre.
Donc le malin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la manière dont on parle un peu, on va dire, rapidement du diable. Voilà.
C'est ça. Et on pourrait se souvenir que le Christ lui-même a cité les Écritures, « L'homme ne vit pas seulement de pain ». mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'ai envie de rappeler le rôle hygiénique, pédagogique et spirituel des privations du carême. Donc ça, c'est le premier écueil.
J'ai noté aussi saint Paul qui fustige durement ceux pour qui Dieu, c'est le ventre. Voilà, c'est dans Philippiens 3:19.
Oui, là aussi, c'est une parole forte. Donc ça, c'est le premier écueil, quand la nourriture est vraiment la source excessive de plaisir, quand tout tourne autour du ventre, finalement. Mais, et du coup, c'est important de revenir à ce qu'on appelle la tempérance. Et j'ai été très, très surprise, en préparant ce topo, de me rendre compte que dans l'écriture, il y avait énormément de citations de la tempérance. Dans la première aux Corinthiens, on conseille de s'imposer toute espèce d'abstinence, mais pour une couronne incorruptible. Dans Galates 5:22, Pierre fait l'éloge de la tempérance. Il rappelle que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité et la tempérance. Matthieu fustige les pharisiens et les scribes, qui nettoient en dehors les coupes et les plats, alors qu'en dehors ils sont pleins de rapines et d'intempérance. J'ai été très surprise aussi de trouver dans l'Ecclésiaste une phrase sans appel et extrêmement moderne, car trop manger est malsain et l'intempérance provoque des coliques, comme quoi le cerveau intestinal était déjà au goût du jour. Et en sagesse, on lit tempérance et prudence, justice et force, ce qu'il y a de plus utile pour les hommes dans la vie. Donc voilà. Vraiment, ça semble vraiment important.
Mais il n'y a pas là que Dieu, comment dire, que ça n'est pas du moralisme. On entend par là que il est bon. Enfin, Dieu nous a voulu avec du goût, et donc cela fait partie de son plan que de savoir bien manger. On disait même de Jésus que c'était un glouton et un ivrogne aussi. J'ai noté en Matthieu 11:19.
Oui, c'est juste pour équilibrer le fait que depuis tout à l'heure nous parlons de bien manger, du fait que c'est important, et en même temps. Voilà, il s'agit juste que ça ne soit pas le centre de notre vie, donc bien manger pour bien vivre et non pas vivre pour manger.
La frugalité, c'est quoi justement? C'est tenir cet équilibre, tout simplement?
Exactement, exactement. Et c'est assez étonnant que les études scientifiques modernes prouvent que peut-être que ce que le Créateur avait prévu, eh bien, c'est finalement ce qui nous permet de vivre longtemps et en bonne santé.
Pourriez-vous nous parler un petit peu de ceux qui sont pris dans de véritables troubles alimentaires? Ils ont un nom, TCA. Je ne me retrouve plus ce que ce sigle signifie, mais je vais vous laisser nous présenter, troubles des conduites alimentaires, et surtout, comment est-ce que vous accompagnez ces personnes et quel horizon peut s'ouvrir pour ceux qui sont concernés? À partir de quand on devient sujet à un TCA, un trouble des conduites alimentaires?
Alors, ceci n'a rien à voir avec le précédent écueil que je viens de citer. Là, c'est lorsque la nourriture est utilisée à d'autres fins que simplement se nourrir, et comme lorsqu'elle sert d'échappatoire aux émotions. Et à ce moment-là, je vais utiliser la nourriture comme un anxiolytique ou pour combler un vide. Je vais me remplir. La nature a horreur du vide. Et quand je me sens vide, vide d'affection, vide de réussite, vide de présence, vide d'estime de moi, je vais avoir besoin de me remplir. Et malheureusement, le plus simple est alors de me remplir avec ce qu'il y a dans mon placard ou mon frigo. Alors ça va du simple grignotage au TCA, c'est-à-dire au trouble des conduites alimentaires, avec parfois des pulsions alimentaires qui vont jusqu'à des crises de boulimie, c'est-à-dire je me remplis de choses qui parfois sont même indigestes, je me remplis avec beaucoup de mésestime de moi, avec une impossibilité à m'arrêter, et ce qui va m'arrêter, c'est l'inconfort digestif. Vraisemblablement, ensuite, si je suis vraiment très très mal, j'aurai peut-être recours au vomissement pour aller légèrement mieux.
Comment vous accompagnez ces personnes? On imagine que c'est difficile, il faudrait beaucoup de temps pour l'expliquer, mais c'est saisissant ce que vous racontez.
C'est là où je voudrais vraiment que les personnes éventuellement qui se sentent concernées par ce problème retrouvent un petit peu d'espérance, parce que la TCC, donc les thérapies cognitives et comportementales, sont actuellement les seules techniques qui ont montré leur efficacité dans l'accompagnement de ces personnes. C'est vrai que c'est un accompagnement qui est long. mais qui est tout à fait possible. On réapprend d'abord à s'observer, à prendre conscience de ce qui se passe dans notre tête, de ces émotions qui nous envahissent. On apprend à les gérer autrement que par la nourriture, parce que finalement, la nourriture à ce moment-là est le seul moyen qu'on a trouvé pour aller un peu mieux. Voilà, j'ai mal. Voilà, c'est comme quand vous vous brûlez, vous soufflez dessus. Ben voilà, je vais très mal. J'ai une émotion négative et j'ai appris peut-être dans mon enfance que en mangeant, ça me permettait d'aller mieux. Donc ça me permet d'obtenir une consolation passagère, un soulagement passager. Mais évidemment, c'est un cercle vicieux parce que ça ne règle pas le problème. Et donc, encore une fois, toutes les techniques d'accompagnement de TCC.
Donc, dans le travail thérapeutique, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de remonter la chaîne des causes, c'est ça? Et puis de mettre à jour...
On ne remonte pas forcément dans l'enfance. On apprend à s'observer, à voir quelles sont les situations qui vont déclencher ces émotions terribles. On apprend à gérer autrement les émotions. Alors là, il y a tout un tas de techniques, d'outils que l'on enseigne aux patients. Et donc, toutes ces compétences que finalement ils n'ont pas parce qu'on ne les leur a pas apprises, eh bien, on va les leur enseigner et ils vont peu à peu devenir de plus en plus autonomes et faire de moins en moins de crises de boulimie et se sentir complètement libérés par rapport à ce trouble qui entraîne beaucoup, beaucoup de souffrance et de mésestime.
Et donc, c'est possible?
Absolument, c'est tout à fait possible.
Pour finir, rapidement, je vois qu'il nous reste deux petites minutes. Peut-être peut-on finir en cette émission en ouvrant à nouveau sur la personne de Jésus, qui était donc, on va dire, familier des repas. Vous l'avez dit, hein, son premier miracle était à Cana lors d'un mariage, alors que les invités étaient à table. On disait de lui qu'il était un glouton et un ivrogne. Il ne l'était probablement pas, mais en tout cas, il passait beaucoup de temps à passer de maison en maison et il était souvent invité. Donc, on imagine qu'il lui arrivait souvent de déjeuner ou de dîner. Qu'est-ce que vous pourriez dire de Jésus pour finir?
Eh bien, certes, il aimait la bonne chère, il aimait l'hospitalité, il aimait toute cette symbolique que nous avons développée. Mais au-delà de ça, je crois que, et c'est un petit peu comme un dessert, hein, une douceur suprême, au-delà de ça, il nous a proposé son corps à manger. Et finalement, manger le corps du Christ, c'est une double incorporation. On le chante parfois, devenez ce que vous recevez. Et on l'a dit de la même façon de la nourriture, nous devenons ce que nous mangeons. Et bien là, nous allons devenir un peu du Christ, nous allons un peu incorporer sa force, sa sainteté, son Esprit Saint pour devenir, espérons-le, un peu meilleur. C'est un acte de foi. Et je dirais qu'il y a une autre incorporation, c'est que nous faisons corps, nous participons à l'Église qu'il a désiré, et ça c'est un acte de religion au sens de nous relier les uns aux autres. Jésus, pain de vie, qui nous demande lui-même, venez et mangez, qui mangera de ce pain vivra à jamais. Et j'avais à cœur d'élever peut-être un petit peu le débat au-delà de notre assiette et de rappeler que nous en ayons conscience ou pas, en tout cas pour les chrétiens que nous sommes, recevoir le pain de vie est à chaque fois un petit peu le miracle gratuit de l'amour qui veut pour nous la vie en abondance. Et c'est un petit peu comme si ce dessert, eh bien, nous ne l'avons finalement jamais mérité. Il est toujours un cadeau de surcroît.
Eh ben, merci beaucoup, Evelyne Mur, d'être venue au micro de Vivante Église ce matin de Radio Présence pour nous parler nourriture et nous aider à mieux vivre et à élever notre corps et notre âme par la même occasion. Merci beaucoup. Je rappelle une dernière fois le titre de votre dernier livre, Maigrir grâce à mes trois cerveaux, paru aux éditions Le Duc Pratique. Merci.
Merci à vous.
Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.